Émile Gaborio, le crime d'Orcival. Le 9 juillet 1860, un jeudi, Jean Berthaud, dit Larry Paille, et son fils, bien connus à Orcival pour vivre de braconnage et de maraude, se levèrent sur les 3 heures du matin, avec le jour, pour aller à la pêche. Chargés de leurs agrès, ils descendirent ce chemin charmant, ombragé d'acacias, qu'on aperçoit de la station d'Évry et qui conduit du bourg d'Orcival à la Seine. Ils se rendaient à leur bateau, amarré d'ordinaire à une cinquantaine de mètres en avant du pont de fil de fer, le long d'une prairie, joignant Valfeuillu, la belle propriété du comte de Trémorel. Arrivés au bord de la rivière, ils se débarrassèrent de leurs engins de pêche et Jean Larivaille entra dans le bateau pour vider l'eau qu'il contenait. Pendant que, d'une main exercée, il maniait les copes, il s'aperçut qu'un des tolets de la vieille embarcation, usée par la rame, était sur le point de se rompre. « Philippe ! » cria-t-il à son fils, occupé à démêler un épervier dont un garde-pêche eût trouvé les mailles trop serrées. « Philippe, tâche donc de m'avoir un bout de bois pour refaire notre tolet. »« On y va !» répondit Philippe. Il n'y avait pas un arbre dans la prairie. Le jeune homme se dirigea donc vers le parc de Valfeuillu, distant de quelques pas seulement, et peu soucieux de l'article 391 du Code Ménal, il franchit le large fossé qui entoure la propriété de M. de Trémorel. Il se proposait de couper une branche à l'un des vieux saules qui, à cet endroit, trempent au fil de l'eau leurs branches éplorées. Il avait à peine tiré son couteau de sa poche, tout en promenant autour de lui le regard inquiet du maraudeur, qu'il poussa un cri étouffé. « Mon père, hé, mon père ! Qu'y a-t-il ? » répondit, sans se déranger, le vieux braconnier. « Père, père, venez ! » continua Philippe. « Au nom du ciel, venez vite !» Jean Larivaille comprit à la voix rauque de son fils qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. Il lâcha son écope, et l'inquiétude aidant, en 3 bonds, il fut dans le parc. Lui aussi, il resta épouvanté devant le spectacle que lui avait terrifié Philippe. Sur le bord de la rivière, parmi les joncs et les glaïeuls, le cadavre d'une femme gisait. Ses longs cheveux dénoués s'éparpillaient parmi les herbes aquatiques, sa robe de soie grise en lambeaux était souillée de boue et de sang. Toute la partie supérieure du corps plongeait dans l'eau peu profonde et le visage était enfoncé dans la vase. « Un assassinat !» murmura Philippe, dont la voix tremblait. « Ça, c'est sûr !» répondit Larry Paille d'un ton indifférent. « Mais quelle peut être cette femme ? Vrai, on dirait la comtesse !»« Oh, nous allons bien voir !» dit le jeune homme. Il fit un pas vers le cadavre, son père l'arrêta par le bras. « Que veux-tu faire, malheureux ? » prononça-t-il. « On ne doit jamais toucher au corps d'une personne assassinée sans la justice. Vous croyez ? Oh, certainement, il y a des peines pour cela. Alors allons prévenir le maire. Pourquoi faire ? Les gens d'ici ne nous en veulent peut-être pas assez. Qui sait si on ne nous accuserait pas ? Mais cependant, mon père, quoi ? Si nous allons avertir M. Courtois, il nous demandera comment et pourquoi nous nous trouvions dans le parc de M. de Trémorel pour voir ce qui s'y passait. Qu'est-ce que cela te fait qu'on ait tué la comtesse ? On retrouvera bien son corps sans toi. Eh bien, allez, allons-nous-en. Mais Philippe ne bougea pas. La tête baissée, le menton appuyé sur la paume de sa main, il réfléchissait. « Mais il faut avertir !» déclara-t-il d'un ton décidé. « On n'est pas des sauvages. Nous dirons à M. Courtois que c'est en côtoyant le parc dans notre bachot que nous avons aperçu le corps. » Le vieux Larry Paille résista d'abord, puis voyant que son fils irait sans lui, il parut se rendre à ses instances. Ils franchirent donc de nouveau le fossé, et abandonnant leurs agrès dans la prairie, ils se dirigèrent en toute hâte vers la maison de M. le maire d'Orcival. Située à 5 kilomètres de Corbeil, sur la rive droite de la Seine, à 25 minutes de la station d'Évry, Orcival est un des plus délicieux villages des environs de Paris, en dépit de l'infernale étymologie de son nom. Le Parisien, un bruyant épillard, qui le dimanche s'abat dans les champs, plus destructeur que la sauterelle, n'a pas découvert encore ses campagnes riantes. L'odeur navrante de la friture des guinguettes n'y étouffe pas le parfum des chèvrefeuilles. Les refrains des canotiers, la ritournelle du cornet à piston, des bals publics, n'y ont jamais épouvanté les échos. Paresseusement accroupi sur les pentes douces d'un coteau que baigne la Seine, Orcival a des maisons blanches, des ombrages délicieux et un clocher tout neuf qui fait son orgueil. De tous côtés, de vastes propriétés de plaisance, entretenues à grands frais, l'entourent. De la hauteur, on aperçoit les girouettes de 20 châteaux. À droite, ce sont les futaies de Montpréoir et le joli castel de la comtesse de la Brèche. En face, de l'autre côté du fleuve, voici Mousseau et Petitbourg, l'ancien domaine à Guado, devenu la propriété d'un carrossier illustre, M. Binder. À gauche, ces beaux arbres sont au comte de Trémorel. Le grand parc est le parc d'Étiole, et dans le lointain, tout là-bas, c'est Corbeil. Cet immense bâtiment dont la voiture dépasse à grand chêne, c'est le moulin d'Arblay. Le maire d'Orcival habite tout en haut du village, une de ces maisons comme on en voit dans les rêves de 100 000 livres de rente. Fabricant de toiles peintes autrefois, M. Courtois a débuté dans le commerce sans un sou vaillant, et après 30 années d'un labeur acharné, il s'est retiré avec 4 millions bien ronds. Alors il se proposait de vivre bien tranquille entre sa femme et ses filles, passant l'hiver à Paris et l'été à la campagne. Mais voilà que tout à coup, on le vit inquiet et agité. L'ambition venait de le mordre au cœur. Il faisait 100 démarches pour être forcé d'accepter la mairie d'Orcival, et il l'a accepté, bien à son corps défendant, ainsi qu'il vous le dira lui-même. Cette mairie fait à la fois son bonheur et son désespoir. Désespoir apparent, bonheur intime et réel. Il est bien, lorsque le front chargé du nuage, il maudit les soucis du pouvoir, et il est mieux lorsque le ventre ceint de l'écharpe à gland d'or, il triomphe à la tête du corps municipal. Tout le monde dormait encore chez M. le maire lorsque les Bertrouv, père et fils, vinrent heurter le lourd marteau de la porte. Après un bon moment, un domestique, aux trois quarts éveillé, à demi vêtu, parut à l'une des fenêtres du rez-de-chaussée. « Qu'est-ce qu'il y a, méchant garnement ?» demanda-t-il d'un ton de mauvaise humeur. La ripaille ne jugea point à propos de relever une injure qui ne justifiait que trop sa réputation dans la commune. « Nous voulons parler à monsieur le maire, » répondit-il, « et c'est terriblement pressé. Allez l'éveiller, monsieur Baptiste, il ne vous grondera pas. »« Est-ce qu'on me gronde, moi ?» grogna Baptiste. Il fallut cependant 10 bonnes minutes de pourparlers et d'explications pour décider le domestique. Enfin, les Berthaud comparurent par-devant un petit homme gros et rouge, fort mécontent d'être tiré du lit si matin. C'était M. Courtois. Il avait été décidé que Philippe porterait la parole. « Monsieur le maire, commença-t-il, nous venons vous annoncer un grand malheur. Il y a eu pour sûr un crime chez M. de Trémorel. » M. Courtois était l'ami du comte. Il devint à cette déclaration inattendue plus blême que sa chemise. « Oh mon Dieu !» balbutia-t-il, incapable de maîtriser son émotion. « Que me dites-vous là, un crime ?»« Oui, nous avons vu un corps tout à l'heure, et aussi vrai que nous voilà, je crois que c'est celui de la comtesse. » Le digne maire leva les bras au ciel d'un air parfaitement égaré. Mais quand ? Interrogea-t-il. Tout à l'heure, au bout du parc que nous longions pour aller relever nos masses. Mais c'est horrible ! Répétait le bon monsieur Courtois. Mais quel malheur ! Une si digne femme ! Mais c'est pas possible, vous devez vous tromper, on m'aurait prévenu. Nous avons bien vu, monsieur le maire. Un tel crime dans ma commune ! Enfin, vous avez bien fait de venir. Je vais m'habiller en deux temps et nous allons courir. C'est-à-dire, non, attendez. Il parut réfléchir un minute et appela « Baptiste !» Le domestique n'était pas loin. L'oreille et l'œil alternativement collés au trou de la serrure, il écoutait et regardait de toutes ses forces. À la voix de son maître, il n'eut qu'à allonger le bras pour ouvrir la porte. « Monsieur m'appelle ?»« Cours chez le juge de paix, lui dit le maire. Il n'y a pas une seconde à perdre. Il s'agit d'un crime, d'un meurtre peut-être. Qu'il vienne vite, bien vite !»« Et vous autres » continua-t-il s'adressant au Berthaud, « attendez-moi ici, je vais passer un paletot. » Le juge de paix d'Orcival, le père Planta, comme on l'appelle, est un ancien avoué de Melun. À 50 ans, le père Plantal, auquel tout avait toujours réussi à souhait, perdit dans le même mois sa femme, qu'il adorait, et ses fils, deux charmants jeunes gens, âgés l'un de 18 et l'autre de 22 ans. Ces pertes successives atterrèrent un homme que 30 années de prospérité laissaient sans défense contre le malheur. Pendant longtemps, on craignit pour sa raison. La seule vue d'un client venant troubler sa douleur pour lui conter de seules histoires d'intérêt l'exaspérait. On ne fut donc pas surpris de lui voir vendre son étude à moitié prix. Il voulait s'établir à son aise dans son chagrin, avec la certitude de n'en point être distrait. Mais l'intensité des regrets diminua et la maladie du désœuvrement vint. La justice de paix d'Orcival était vacante, le père Planta la sollicita et l'obtint. Une fois juge de paix, il s'ennuya moins. Cet homme, qui voyait sa vie finie, entreprit de s'intéresser aux 1000 causes diverses qui se plaidaient chez lui. Il appliqua toutes les formes d'une intelligence supérieure, toutes les ressources d'un esprit éminemment dédié à délier le faux du vrai, parmi tous les mensonges qu'il était forcé d'écouter. Il s'obstina d'ailleurs à vivre seul, en dépit des exhortations de M. Courtois, prétendant que toute société le fatiguait et qu'un homme malheureux est un trouble fait. Le temps que lui laissait son tribunal, il le consacrait à une collection sans pareille de pétunia. Le malheur qui modifie les caractères, soit en bien, soit en mal, l'avait rendu en apparence affreusement égoïste. Il assurait ne pas s'intéresser aux choses de la vie plus qu'un critique blasé au jeu de la scène. Il aimait à faire parade de sa profonde indifférence pour tout, jurant qu'une pluie de feu tombant sur Paris ne lui ferait seulement pas tourner la tête. L'émouvoir semblait impossible. « Qu'est-ce que cela me fait à moi ?» était son invariable refrain. Tel est l'homme qui, un quart d'heure après le départ de Baptiste, arrivait chez le maire d'Orcival. Monsieur Planta est grand, maigre et nerveux. Sa physionomie n'a rien de remarquable. Il porte les cheveux courts, ses yeux inquiets paraissent toujours chercher quelque chose, son nez fort long est mince comme la lame d'un rasoir. Depuis ses chagrins, sa bouche, si fine jadis, s'est déformée, la lèvre inférieure s'est affaissée et lui donne une trompeuse apparence de simplicité. « Que m'apprend-on » dit-il de la porte. « On a assassiné Madame de Trémorel. »« Ces gens-ci, du moins, le prétendent, » répondit le maire qui venait de reparaître. Monsieur Courtois n'était plus le même homme. Il avait eu le temps de se remettre un peu. Sa figure s'essayait à exprimer une froideur majestueuse. Il s'était vertement blâmé d'avoir, en manifestant son trouble et sa douleur devant les Berthaud, manqué de dignité. Rien ne doit émouvoir à ce point un homme dans ma position, s'était-il dit. Et bien qu'effroyablement agité, il s'efforça d'être calme, froid, impassible. Le père Plantal, lui, était ainsi tout naturellement. « Oh, ce serait un accident bien fâcheux, » dit-il d'un ton qu'il s'efforçait de rendre parfaitement désintéressé. « Mais au fond, qu'est-ce que cela nous fait? Faut néanmoins aller voir sans retard ce qu'il y en est. J'ai fait prévenir le brigadier de gendarmerie qui nous rejoindra. « Partons, » dit M. Courtois, « j'ai mon écharpe dans ma poche. » On partit. Philippe et son père marchaient les premiers, le jeune homme empressé et impatient, le vieux sombre et préoccupé. Le maire, à chacun ce pas, laissait échapper quelques exclamations. « Mais comprend-on cela ? Murmurait-il un meurtre dans ma commune ? Une commune où de mémoire d'homme, il n'y a point eu de crime de commis. » Et il enveloppait les deux Berthaud d'un regard soupçonneux. Le chemin qui conduit à la maison, dans le pays, on dit au château, de M. de Trémorel, est assez déplaisant, encaissé qu'il est par des murs d'une douzaine de pieds de haut. D'un côté, c'est le parc de la marquise de Lanascolle, de l'autre, le grand jardin de Saint-Jouan. Les allées et venues avaient pris du temps, il était près de 8 heures, lorsque le maire, le juge de paix et leur guide s'arrêtèrent devant la grille de M. de Trémorel. Le maire sonna. La cloche est fort grosse, une petite cour sablée de 5 ou 6 mètres sépare seule la grille de l'habitation, mais cependant personne ne parut. Monsieur le maire sonna plus fort encore, puis de toutes ses forces, en vain. Devant la grille du château de Monsieur de Lamassol, situé presque en face, un palefrenier était debout, occupé à nettoyer et à polir un mort de bride. « C'est l'heure à peine de sonner, messieurs, » dit cet homme. « Il n'y a personne au château. » « Comment, personne ?» demanda le maire, surpris. « J'entends, » répondit le palefrenier, « qu'il n'y a que les maîtres. Les gens sont tous partis hier soir par le train de 8h40 pour se rendre à Paris, assister à la noce de l'ancienne cuisinière Madame Denis. Ils doivent revenir ce matin par le premier train. J'ai été invité, moi aussi. » « Grand Dieu !» interrompit M. Courtois. Alors le comte et la comtesse sont restés seuls cette nuit ? Absolument seuls, monsieur le maire. Mais c'est horrible ! Le père Plantat semblait s'impatienter de ce dialogue. « Voyons, dit-il, nous ne pouvons nous éterniser à cette porte. Les gendarmes n'arrivent pas. En voyant chercher le serrurier. » Déjà, Philippe prenait son élan lorsqu'au bout du chemin, on entendit des chants et des rires. 5 personnes, 3 femmes et 2 hommes, parurent presque aussitôt. « Ah ! Voilà les gens du château !» dit le palefrenier, que cette visite matinale semblait intriguer singulièrement. « Ils doivent avoir une clé !» De leur côté, les domestiques, apercevant le groupe arrêté devant la grille, se turent et hâtèrent le pas. L'un d'eux même se mit à courir, devançant ainsi les autres. C'était le valet de chambre du comte. « Ces messieurs voudraient parler à monsieur le comte » demanda-t-il, après avoir salué le maire et le juge de paix. Ben « voici 5 fois que nous sonnons à tout rompre, » dit le maire. « C'est surprenant, » fit le valet de chambre. « Monsieur a pourtant le sommeil bien léger. Ah, après cela, il est peut-être sorti. »« Malheur !» s'écria Philippe. « On les aura assassinés tous les deux. » Ces mots dégrisèrent les domestiques, dont la gaieté annonçait un nombre très raisonnable de santé vu au bonheur des nouveaux époux. M. Courtois, lui, paraissait étudier l'attitude du vieux Berthaud. « Un assassinat ? » murmura le valet de chambre. « Ah ! C'est pour l'argent, alors on aura su Quoi ? Demanda le maire. Ben, monsieur le comte a reçu hier dans la matinée une très forte somme. Oh, oui, forte somme, ajouta une femme de chambre. Il y avait gros comme cela de billets de banque. Madame a même dit à monsieur qu'elle ne fermerait pas l'œil de la nuit avec cette somme immense dans la maison. Il y eut un silence, chacun se regardant d'un air effrayé. Monsieur Courtois, lui, réfléchissait. « À quelle heure êtes-vous parti hier soir ?» demanda-t-il au domestique. « À 8 heures, on avait avancé le dîner. Vous êtes parti tous ensemble ?»« Oui, monsieur. » »« Vous ne vous êtes pas quitté ?»« Pas une minute. » »« Et vous revenez tous ensemble ?» Les domestiques échangèrent un singulier regard. « Tous ?» répondit une femme de chambre qui avait la langue bien pendue. C'est-à-dire non, il y en a un qui nous a lâchés en arrivant à la gare de Lyon, à Paris, c'est Gaspin. Ah ? Oui, monsieur, il a filé de son côté en disant qu'il nous rejoindrait au Batignolles chez Vepler, où se faisait la noce. Monsieur le maire donna d'un grand coup de coude au juge de paix, comme pour lui recommander l'attention, et continua à interroger. « Et ce Gaspin, comme vous le nommez, l'avez-vous revu ?»« Non, monsieur, j'ai même plusieurs fois demandé inutilement de ses nouvelles pendant la nuit. Son absence me paraissait louche. » Évidemment, la femme de chambre essayait de faire montre d'une perspicacité supérieure. Encore un peu, elle lui parlait de pressentiment. « Ce domestique, demanda monsieur Courtois, était-il depuis longtemps dans la maison ? Depuis le printemps ? Quelles étaient ses attributions ? Il avait été envoyé de Paris par la maison du gentil jardinier pour soigner les fleurs rares de la serre de madame. Et avait-il eu connaissance de l'argent ? Les domestiques eurent encore des regards bien significatif. Oh oui, répondit-il en cœur, nous en avions beaucoup causé entre nous à l'office. Même, ajouta la femme de chambre belle parleuse, il m'a dit à moi-même, parlant à ma personne, dire que monsieur le comte a dans son secrétaire de quoi faire notre fortune à tous. Quelle espèce d'homme est-ce ? Cette question éteignit absolument la loquacité des domestiques. Aucun n'osait parler, sentant bien que le moindre mot pouvait servir de base à une accusation terrible. Mais le palefrenier de la maison d'en face, qui brûlait de se mêler à cette affaire, n'eut point ses scrupules. « Oh, c'est, répondit-il, un bon garçon, Gaspin, et qui a roulé, Dieu de Dieu en sait-il de ces histoires ? Il connaît tout, cet homme-là. Il paraît qu'il a été riche dans le temps. Et s'il voulait ? Mais, dame, il aime le travail, tout fait. Et avec ça, c'est un noceur, comme il n'y en a pas, un creveur de billard, quoi. » Tout en écoutant d'une oreille, en apparence distraite, ses dépositions, ou, pour parler plus juste, ses cancans, le père Planta examinait soigneusement et le mur et la grille. Il se retourna à point nommé pour interrompre le palefrenier. « Oh, voilà, c'est, dit-il, au grand scandale de M. Courtois. Avant de poursuivre cet interrogatoire, il est bon de constater le crime, et si crime il y a toutefois, ce qui n'est pas prouvé, que celui de vous qui a une clé ouvre la grille. » Le valet de chambre avait la clé. Il ouvrit et tout le monde pénétra dans la petite cour. Les gendarmes venaient d'arriver. Le maire dit au brigadier de le suivre et plaça 2 hommes à la grille avec défense de laisser entrer ou sortir personne sans sa permission. Alors seulement, le valet de chambre ouvrit la porte de la maison. S'il n'y avait pas eu de crime, au moins s'était-il passé quelque chose de bien extraordinaire chez le comte de Trémorel, l'impassible juge de paix dut en être convaincu dès ses premiers pas dans le vestibule. La porte vitrée donnant sur le jardin était toute grande ouverte, et trois des carreaux étaient brisés en 1000 pièces. Le chemin de toile cirée qui reliait toutes les portes avait été arraché, et sur les dalles de marbre blanc, çà et là, on apercevait de larges gouttes de sang. Au pied de l'escalier était une tache plus grande que les autres, et sur la dernière marche, une éclaboussure hideuse à voir. Peu fait pour de tels spectacles, pour une mission comme celle qu'il avait à remplir, l'honnête M. Courtois se sentait défaillir. Par bonheur, il puisait, dans le sentiment de son importance et de sa dignité, une énergie bien éloignée de son caractère. Plus l'instruction préliminaire de cette affaire lui paraissait difficile, plus il tenait à bien la mener. « Conduisez-nous à l'endroit où vous avez aperçu le corps, » dit-il au Berthaud. Mais le père Plantat intervint. « Il serait, je crois, plus sage, objecta-t-il, et plus logique, de commencer par visiter la maison. » « Soit, oui, en effet, c'est ce que je pensais, » dit le maire, s'accrochant au conseil du juge de paix, comme un jeune homme qui se noie s'accroche à une planche. Et il fit retirer tout le monde, à l'exception du brigadier et du valet de chambre, destiné à servir de guide. « Gendarme !» cria-t-il encore aux hommes en faction devant la grille. « Veillez à ce que personne ne s'éloigne, empêchez d'entrer dans la maison et que nul surtout ne pénètre dans le jardin. » On monta alors. Tout le long de l'escalier, les taches de sang se répétaient. Il y avait aussi du sang sur la rampe, et M. Courtois s'aperçut avec horreur qu'il s'y était rougi les mains. Lorsqu'on fut arrivé au palier du premier étage, « Dites-moi, mon ami, demanda le maire au valet de chambre, vos maîtres faisaient-ils chambre commune ?»« Oui, monsieur, répondit le domestique. « Et où est leur chambre ?»« Là, monsieur. » Et en même temps qu'il répondait, le valet de chambre reculait effrayé et montrait une porte dont le panneau supérieur portait l'empreinte d'une main ensanglantée. Des gouttelettes de sueur perlaient sur le front du pauvre maire. Lui aussi, il avait peur à grand-peine. Il pouvait se tenir debout, et hélas, le pouvoir impose de terribles obligations. Le brigadier, un vieux soldat de Crimée, visiblement ému, hésitait. Seul le père Plantat, tranquille comme dans son jardin, gardait son sang-froid et regardait les autres en dessous. « Il faut pourtant décider, » prononça-t-il. Il entra, les autres le suivirent. La pièce où on pénétra n'offrait rien de bien insolite. C'était un boudoir tendu de satin bleu, garni d'un divan et de 4 fauteuils capitonnés en étoffe pareille à la tenture. Un des fauteuils était renversé. On passa dans la chambre à coucher. Effroyable était le désordre de cette pièce. Il n'était pas un meuble, pas un bibelot qui n'attestât qu'une lutte terrible, enragée, sans merci, avait eu lieu entre les assassins et les victimes. Au milieu de la chambre, une petite table de laque était renversée et, tout autour, s'éparpillaient des morceaux de sucre, des cuillères de vermeil, des débris de porcelaine. « Ah !» dit le valet de chambre, « Monsieur et madame prenaient le thé lorsque les misérables sont entrés. » La garniture de la cheminée avait été jetée à terre. La pendule, en tombant, s'était arrêtée sur 3h20. Près de la pendule gisaient les lampes, les globes étaient en morceaux, l'huile s'était répandue. Le ciel de lit avait été arraché et couvrait le lit. On avait dû s'accrocher désespérément aux draperies. Tous les meubles étaient renversés. L'étoffe des fauteuils était hachée de coups de couteau et par endroits le grain sortait. On avait enfoncé le secrétaire. La tablette disloquée pendait aux charnières, les tiroirs étaient ouverts et vides. La glace de l'armoire, en pièces, en pièces un ravissant chiffonnier de boules, la table à ouvrage brisé, la toilette bouleversée, et partout du sang sur le tapis, le long de la tapisserie, aux meubles, aux rideaux du lit surtout. Évidemment, le comte et la comtesse de Trémorel s'étaient défendus courageusement et longtemps. « Les malheureux !» balbutiait le pauvre maire. « Les malheureux, c'est ici qu'ils ont été massacrés !» Et au souvenir de son amitié pour le comte, oubliant son importance, jetant son masque d'homme impassible, il pleura. Tout le monde perdait un peu la tête, mais pendant ce temps, le juge de paix se livrait à une minutieuse perquisition. Il prenait des notes sur son carnet, il visitait les moindres recoins. Lorsqu'il eut terminé, « Maintenant, dit-il, voyons ailleurs. » Ailleurs, le désestordre était pareil. Une bande de fous furieux ou de malfaiteurs pris de frénésie avait certainement passé la nuit dans la maison. Le cabinet du comte, particulièrement, avait été bouleversé. Les assassins ne s'étaient pas donné la peine de forcer les serrures. Ils avaient procédé à coups de hache. Certainement, ils avaient la certitude de ne pouvoir être entendus, car il leur avait fallu frapper terriblement fort pour faire voler en éclats le bureau de chêne massif. Les livres de la bibliothèque étaient à terre pêle-mêle. Ni le salon, ni le fumoir n'avaient été respectés. Les divans, les chaises, les canapés étaient déchirés comme si on les eût sondés avec des épées. Deux chambres réservées, des chambres d'amis, étaient sans dessus-dessous. On monta au second étage. Là, dans la première pièce où on pénétra, on trouva devant un bahut attaqué déjà, mais non ouvert encore, une hache à fendre le bois que le valet de chambre reconnut pour appartenir à la maison. « Comprenez-vous maintenant, disait le maire au père Plantat, les assassins étaient en nombre, c'est évident. Le meurtre accompli, ils se sont répandus dans la maison, cherchant partout l'argent qu'ils savaient s'y trouver. L'un d'eux était ici, occupé à enfoncer ce meuble, lorsque les autres en bas ont mis la main sur les valeurs. On l'a appelé, il s'est empressé de descendre, et jugeant toute recherche désormais inutile, il a abandonné ici cette hache. Je vois la chose comme si j'y étais, approuva le brigadier. Le rez-de-chaussée, qu'on visita ensuite, avait été respecté. Seulement, le crime commis, les valeurs enlevées, les assassins avaient senti le besoin de se réconforter. On retrouva dans la salle à manger des débris de leur souper. Ils avaient dévoré tous les reliefs restés dans les buffets. Sur la table, à côté de 8 bouteilles vides, bouteilles de vin ou de liqueur, 5 verres étaient rangés. « Ils étaient 5 !» murmura le maire. À force de volonté, l'excellent M. Courtois avait recouvré son sang-froid habituel. « Avant d'aller relever les cadavres, dit-il, je vais expédier un mot au procureur impérial de Corbeil. Dans une heure, nous aurons un juge d'instruction qui achèvera notre pénible tâche. » Ordre fut donné à un gendarme d'atteler le tilbury du comte et de partir en toute hâte. Puis le maître et le juge, suivis du brigadier, du valet de chambre et des deux Berthaud, s'acheminèrent vers la rivière. Le parc de Valfeuillu est très vaste, mais c'est de droite et de gauche qu'il s'étend. De la maison à la Seine, il n'y a guère plus de 200 pas. Devant la maison, verdoie une belle pelouse coupée de corbeilles de fleurs. On prend pour gagner le bord de l'eau une des deux allées qui tournent le gazon. Mais les malfaiteurs n'avaient pas suivi les allées. Coupant au plus court, ils avaient traversé la pelouse. Leurs traces étaient parfaitement visibles. L'herbe était foulée et trépignée comme si on y eût traîné quelque lourd fardeau. Au milieu du gazon, on aperçut quelque chose de rouge que le juge de paix alla ramasser. C'était une pantoufle que le valet de chambre reconnut pour appartenir au comte. Plus loin, on trouva un foulard blanc que le domestique déclara avoir vu souvent au cou de son maître. Ce foulard était taché de sang. Enfin, on arriva au bord de l'eau. Sous ces saules, Don Philippe avait voulu couper une branche et on aperçut le cadavre. Le sable à cette place était profondément fouillé, labouré, pour ainsi dire, par des pieds cherchant un point d'appui solide. Là, tout l'indiquait, avait eu lieu la lutte suprême. Monsieur Cournois comprit toute l'importance de ces traces. « Que personne n'avance, dit-il. » Et, suivi seul du juge de paix, il s'approcha du corps. Bien qu'on ne pût distinguer le visage, le maire et le juge reconnurent la comtesse. Tous deux lui avaient vu cette robe grise ornée de passementeries bleues. Maintenant, comment se trouvait-elle là? Le maire supposa qu'ayant réussi à s'échapper des mains des meurtriers, elle avait fui et perdu. On l'avait poursuivie, on l'avait atteinte là, on lui avait porté les derniers coups et elle était tombée pour ne plus se relever. Cette version expliquait les traces de la lutte. Ce serait alors le cadavre du comte que les assassins auraient traîné à travers la pelouse. Monsieur Courtois parlait avec animation, cherchant à faire pénétrer ses impressions dans l'esprit du juge de paix. Mais le père Planta écoutait à peine. On eût pu le croire à 100 lieues du Valfeuillu. Il ne répondait que par monosyllabes. « Oui, non, peut-être. » Et le brave maire se donnait une peine infinie. Il allait, venait, prenait des mesures, inspectait minutieusement le terrain. Il n'y avait pas, à cet endroit, plus d'un pied d'eau. Un banc de vase, sur lequel poussaient des touffes de glaïeul et quelques maigres nénuphars, allait en pente douce du bord au milieu de la rivière. L'eau était claire, le courant nul. On voyait fort bien la vase lisse et luisante. Monsieur Courtois en était là de ses investigations lorsqu'il parut frappé d'une idée subite. « La ripaille ! » s'écria-t-il, « approchez !» Le vieux maraudeur obéit. « Vous dites donc, » interrogea le maire, « que c'est de votre bateau que vous avez aperçu le corps. » « Oui, monsieur le maire. Et où est-il, votre bateau ?»« Là, amarré à la prairie. »« Eh bien, conduisez-nous-y. » Pour tous les assistants, il fut visible que cet ordre impressionnait vivement le bonhomme. Il tressaillit et pâlit sous l'épaisse couche de hâle déposée sur ses joues par la pluie et le soleil. Même on le surprit, jetant à son fils un regard qui parut menaçant. « Marchons !» répondit-il enfin. On allait regagner la maison lorsque le valet de chambre proposa de franchir la douve. « Ce sera bien plus vite fait, dit-il, je vais chercher une échelle que nous mettrons en travers. » Il partit et une minute après reparut avec sa passerelle improvisée. Mais au moment où il allait la placer, « Arrêtez !» lui cria le maire, « arrêtez !» Les empreintes laissées par les berteaux sur les deux côtés du fossé venaient de lui sauter aux yeux. « Qu'est-ce ci ? » dit-il. « Évidemment, on a passé par là. Il n'y a pas longtemps. Ces traces de pas sont toutes fraîches. » Et après un examen de quelques minutes, il ordonna de placer l'échelle plus loin. Lorsqu'on fut arrivé près du bateau, « C'est bien là, » demanda le maire à la ripaille, « l'embarcation avec laquelle vous êtes allé relever vos nasses ce matin. »« Oui, monsieur. »« Alors, » reprit monsieur Courtois, « de quels ustensiles vous êtes-vous servi ? Votre épervier est parfaitement sec. Cette gaffe et ses rames n'ont pas été mouillées depuis plus de 24 heures. » Le trouble du père et du fils devenait de plus en plus manifeste. « Persistez-vous dans vos dires, Berthaud ?» insista le maire. « Et vous, Philippe ?»« Monsieur, balbutia le jeune homme, nous avons dit la vérité. » « Vraiment, reprit M. Courtois d'un ton ironique, alors vous expliquerez à qui de droit comment vous avez pu voir quelque chose d'un bateau sur lequel vous n'êtes pas monté. Ah, dame, on ne pense pas à tout. On vous prouvera aussi que le corps est placé de telle façon qu'il est impossible, vous m'entendez, absolument impossible, de l'apercevoir du milieu de la rivière. Puis vous aurez à dire encore... Quelles sont ces traces que je relève là sur l'herbe et qui vont de votre bateau à l'endroit où le fossé a été franchi à plusieurs reprises et par plusieurs personnes ? Les deux Berthaud baissaient la tête. « Brigadier, ordonna monsieur le maire, au nom de la loi, arrêtez ces deux hommes et empêchez toute communication entre eux. » Philippe semblait près de se trouver mal. Pour le vieux Laripaille, il se contenta de hausser les épaules et de dire à son fils « Tu l'as voulu, n'est-ce pas ?» Puis pendant que le brigadier emmenait les deux maraudeurs, qu'il enferma séparément et sous la garde de ses hommes, le juge de paix et le maire rentraient dans le parc. « Avec tout cela, murmura M. Courtois, pas de trace du comte. » Il s'agissait de relever le cadavre de la comtesse. Le maire envoya chercher deux planches qu'on déposa à terre avec 1000 précautions, et ainsi on put agir sans risquer d'effacer des empreintes précieuses pour l'instruction. Hélas, était-ce bien là, celle qui avait été la belle, la charmante comtesse de Trémorel ? Était-ce là ce frais visage riant, ces beaux yeux parlants, cette bouche fine et spirituelle? Rien, il ne restait rien d'elle. La face tuméfiée, souillée de boue et de sang, n'était plus qu'une plaie. Une partie de la peau du front avait été enlevée avec une poignée de cheveux. Les vêtements étaient en lambeaux. Une ivresse furieuse affolait certainement les monstres qui avaient tué la pauvre femme. Elle avait reçu plus de 20 coups de couteau, elle avait dû être frappée avec un bâton, plutôt avec un marteau. On l'avait foulée aux pieds, traînée par les cheveux. Dans sa main gauche, crispée, était un lambeau de drap commun, grisâtre, arraché probablement aux vêtements de l'un des assassins. Tout en procédant à ses lugubres constatations et en prenant des notes pour son procès-verbal, le pauvre maire sentait si bien ses jambes fléchir qu'il était forcé de s'appuyer sur l'impassible père Plantat. « Portons la comtesse à la maison, » ordonna le juge de paix. « Nous verrons ensuite à chercher le cadavre du comte. » Le valet de chambre et le brigadier, qui étaient revenus, durent réclamer l'assistance des domestiques restés dans la cour. Du même coup, les femmes se précipitèrent dans le jardin. Ce fut alors un concert terrible de cris, de pleurs et d'imprécations. Les misérables, une si brave femme, une si bonne maîtresse. Monsieur et madame de Trémorel étaient, on le vit bien, en cette occasion, adorés de leurs gens. On venait de déposer le corps de la comtesse au rez-de-chaussée, sur le billard, lorsqu'on annonça au maire l'arrivée du juge d'instruction et d'un médecin. « Enfin !» murmura le bon M. Courtois. Et plus bas, il ajouta « Les plus belles médailles ont leur revers. » Pour la première fois de sa vie, il venait sérieusement de maudire son ambition et de regretter d'être le plus important personnage d'Orcival. Le juge d'instruction près le tribunal de Corbeil était alors un remarquable magistrat, M. Antoine Domini, appelé depuis à d'éminentes fonctions. M. Domini est un homme d'une quarantaine d'années, fort bien de sa personne, doué d'une physionomie heureusement expressive mais grave, trop grave. En lui semble s'être incarnée la solennité, parfois un peu roide, de la magistrature. Pénétré de la majesté de ses fonctions, il leur a sacrifié sa vie, se refusant les distractions les plus simples, les plus légitimes plaisirs. Il vit seul, se montre à peine, ne reçoit que de rares amis, ne voulant pas, dit-il, que les défaillances de l'homme puissent porter atteinte au caractère sacré du juge et diminuer le respect qu'on lui doit. Cette dernière raison l'a empêché de se marier, bien qu'il se sentît fait pour la vie de famille. Toujours et partout, il est le magistrat, c'est-à-dire le représentant convaincu jusqu'au fanatisme de ce qu'il y a de plus auguste au monde, la justice. Naturellement gai, il doit s'enfermer à double tour lorsqu'il a envie de rire. Il a de l'esprit, mais si un bon mot ou une phrase plaisante lui échappe, soyez sûr qu'il en fait pénitence. C'est bien corps et âme qu'il s'est donné à son état, et nul ne saurait apporter plus de conscience à remplir ce qu'il estime son devoir. Mais aussi, il est inflexible plus qu'un autre. Discuter un article du code est à ses yeux une monstruosité. La loi parle, il suffit, il ferme les yeux, se bouche les oreilles et obéit. Du jour où une instruction est commencée, il ne dort plus et rien ne lui coûte pour arriver à la découverte de la vérité. Cependant, on ne le considère pas comme un bon juge d'instruction. Lutter de ruse avec un prévenu lui répugne. Tendre un piège à un coquin est, dit-il, indigne. Enfin, il est entêté, mais entêté jusqu'à la folie, parfois jusqu'à l'absurde, jusqu'à la négation du soleil en plein midi. Le maire d'Orcival et le père Plantat s'étaient levés avec empressement pour courir au-devant du juge d'instruction. Monsieur Domini les salua gravement, comme s'il ne les eût point connus, et il leur présenta un homme d'une soixantaine d'années qui l'accompagnait. « Messieurs, dit-il, monsieur le docteur Gendron. » Le père Plantat échangea une poignée de main avec le médecin. Monsieur le maire lui adressa son sourire, le plus officiellement gracieux. C'est que le docteur Gendron est bien connu à Corbeil et dans tout le département. Il y est même célèbre, malgré le voisinage de Paris. Praticien d'une habileté hors ligne, aimant son art et l'exerçant avec une sagacité passionnée, le docteur Gendron doit cependant sa renommée moins à sa science qu'à ses façons d'être. On dit de lui « c'est un original », et on admire ses affectations d'indépendance, de scepticisme et de brutalité. C'est entre 5 et 9 heures du matin, été comme hiver, qu'il fait ses visites. Tant pis pour ceux que cela dérange. Ce ne sont point, Dieu merci, les médecins qui manquent. Passé 9 heures, bonsoir, personne plus de docteur. Le docteur travaille pour lui, le docteur est dans sa serre, le docteur inspecte sa cave, le docteur est monté à son laboratoire près du grenier où il cuisine des ragoûts étranges. Il cherche, dit-on dans le public, des secrets de chimie industrielle pour augmenter encore ses 20 000 livres de rente, ce qui est bien peu digne. Et il laisse dire, car le vrai est qu'il s'occupe de poison et qu'il perfectionne un appareil de son invention avec lequel on pourra retrouver les traces de tous les alcaloïdes qui jusqu'ici échappent à l'analyse. Si ses amis lui reprochent même en plaisantant d'envoyer promener les malades dans l'après-midi, il se fâche tout rouge. « Parbleu, répondit-il, je vous trouve superbe. Je suis médecin, 4 heures par jour. Je ne suis guère payé que du quart de mes malades. C'est donc 3 heures que je donne quotidiennement à l'humanité que je méprise et à la philanthropie dont je me soucie. Que chacun de vous en donne autant et nous verrons. » Cependant, monsieur le maire d'Orcival avait fait passer les nouveaux venus dans le salon où il s'était installé pour rédiger son procès-verbal. « Quel malheur pour ma commune que ce crime, disait-il au juge d'instruction. Quelle honte! Voilà Orcival perdu de réputation. Oh, c'est que je ne sais rien ou autant dire, répondait M. Domini. Le gendarme qui est venu me chercher était mal informé. » Alors, Monsieur Courtois raconta longuement ce qui lui avait appris son enquête sommaire, n'oubliant pas le plus inutile détail, insistant sur les précautions admirables qu'il avait cru devoir prendre. Il dit comment l'attitude des Berthaud avait tout d'abord éveillé ses soupçons, comment il les avait pris, à tout le moins en flagrant délit de mensonge, et comment, finalement, il s'était décidé à les faire arrêter. Il parlait debout, la tête rejetée en arrière, avec une emphase verbeuse, s'écoutant, triant les expressions, et à chaque instant les mots de « nous, maire d'Orcival » ou de « ensuite de quoi » revenaient dans son discours. Enfin, il s'épanouissait dans l'exercice de ses fonctions et le plaisir de parler le dédommageait un peu de ses angoisses. « Et maintenant, conclut-il, je viens d'ordonner les plus exactes perquisitions qui, sans nul doute, nous ferons retrouver le cadavre du comte. 5 hommes par mois requis et tous les gens de la maison battent le parc. Si leurs recherches ne sont pas couronnées de succès, j'ai sous la main des pêcheurs qui sonderont la rivière. » Le juge d'instruction se taisait, hochant simplement la tête de temps à autre en signe d'approbation. Il étudiait, il pesait les détails qui lui étaient communiqués, bâtissant déjà dans sa tête un plan d'instruction. « Ah, vous avez fort sagement agi, monsieur le maire, » dit-il enfin. « Le malheur est immense, mais je crois comme vous que nous sommes sur la trace des coupables. Ces maraudeurs que nous tenons, ce jardinier qui n'a pas reparu, doivent être pour quelque chose dans ce crime abominable. » Depuis quelques minutes déjà, le père Plantat dissimulait tant bien que mal, plutôt mal que bien, des signes d'impatience. « Le malheur est, dit-il, que si Guespin est coupable, il ne sera pas assez sot pour se présenter ici. »« Oh, nous le trouverons, » répondit M. Domini. « Avant de quitter Corbeil, j'ai envoyé à Paris, à la préfecture de police, une dépêche télégraphique pour demander à un agent de la police de la Sûreté. » Il sera, je l'imagine, ici avant peu. En attendant, proposa le maire, vous désireriez peut-être, monsieur le juge d'instruction, visiter le théâtre du crime. Monsieur Domini eut un geste comme pour se lever et se rassit aussitôt. Au fait, non, dit-il, autant ne rien voir avant l'arrivée de notre agent, mais j'aurais bien besoin de renseignements sur le comte et la comtesse de Trémorel. Le digne maire triompha de nouveau. « Oh, je puis vous en donner, » répondit-il vivement, « et mieux que personne. Depuis leur arrivée dans ma commune, j'étais, je puis le dire, un des meilleurs amis de monsieur le comte et madame la comtesse. Ah, monsieur, quel gens charmant et excellent et affable et dévoué !» Et au souvenir de toutes les qualités de ses amis, M. Courtois éprouva une certaine gêne dans la gorge. Le comte de Trémorel, reprit-il, était un homme de 34 ans, beau garçon, spirituel, jusqu'au bout des ongles. Il avait bien parfois des accès de mélancolie, pendant lesquels il ne voulait voir personne, mais il était d'ordinaire si aimable, si poli, si obligeant. Il savait si bien être noble, sans morgue, que tout le monde dans ma commune l'estimait et l'adorait. « Et la comtesse ?» demanda le juge d'instruction. « Un ange, monsieur, un ange sur la terre. Pauvre femme, vous allez voir ses restes mortels tout à l'heure, et certes vous ne devinerez pas qu'elle a été la reine du pays par la beauté. » Le comte et la comtesse étaient-ils riches ? Certes, ils devaient réunir à eux deux plus de 100 000 francs de rente. Oh, oui, beaucoup plus. Car depuis 5 ou 6 mois, le comte, qui n'avait pas pour la culture les aptitudes de ce pauvre Sauvresy, vendait les terres pour acheter de la rente. Était-il marié depuis longtemps ? Monsieur Courtois se gratta la tête. C'était son invocation à la mémoire. « Ma foi, répondit-il, c'est au mois de septembre de l'année dernière, il y a juste 10 mois, que je les ai mariés moi-même. Il y avait un an que ce pauvre Sauvresy était mort. » Le juge d'instruction abandonna ses notes pour regarder le maire d'un air surpris. « Quel est, demanda-t-il, ce Sauvresy dont vous nous parlez ?» Le père Plantat, qui se mordillait furieusement les ongles dans son coin, étranger en apparence à ce qui se passait, se leva vivement. « Ah, monsieur Sauvresy, dit-il, était le premier mari de madame de Trémorel. Mon ami Courtois avait négligé ce fait. »« Oh !» riposta le maire d'un ton blessé, « il me semble que dans les conjonctures présentes... »« Oh, pardon !» interrompit le juge d'instruction. « Il est tel détail qui peut devenir précieux, bien qu'étranger à la cause, et même insignifiant au premier abord. »« Hum !» grommela le père Plantat. « Insignifiant, étranger !» Son ton était à ce point singulier, son air si équivoque, que le juge d'instruction en fut frappé. « Ne partageriez-vous pas, monsieur, demanda-t-il, les opinions de monsieur le maire sur le compte des époux Trémorel ?» Le père Plantat haussa les épaules. « Oh, je n'ai pas d'opinion, moi, répondit-il, je vis seul, je ne vois personne. Que m'importent toutes ces choses ? Cependant, oh, il me semble, s'exclama M. Courtois, que nul mieux que moi ne doit connaître l'histoire des gens qui ont été mes amis et mes administrés. C'est qu'alors, répondit sèchement le père Plantat, vous la comptez mal. Et comme le juge d'instruction le pressait de s'expliquer, il prit sans façon la parole au grand scandale du maire, rejeté ainsi au second plan, esquissant à grands traits la biographie du comte et de la comtesse. La comtesse de Trémol était Berthe Le Chaillu. Elle était la fille d'un pauvre petit instituteur de campagne. À 18 ans, sa beauté était célèbre à 3 lieues à la ronde, mais comme elle n'avait pour toute dot que ses grands yeux bleus et d'admirables cheveux blonds, les amoureux, c'est-à-dire les amoureux pour le bon motif, ne se présentaient guère. Déjà, Berthe, sur les conseils de sa famille, se résignait à coiffer Sainte-Catherine et sollicitait une place d'institutrice, triste place pour une fille si belle, lorsque l'héritier d'un des plus riches propriétaires du pays eut occasion de la voir et s'éprit d'elle. Clément Sauvresy venait d'avoir 30 ans. Il n'avait plus de famille et possédait près de 100 000 livres de rente en belles et bonnes terres absolument libres d'hypothèques. C'est dire que, mieux que personne, il avait le droit de prendre femme à son gré. Il n'hésita pas, il demanda la main de Berthe, l'obtint, et un mois après, il l'épousait en plein midi, au grand scandale des fortes têtes de la contrée qui allaient répétant « Quelle folie ! À quoi sert d'être riche si ce n'est à doubler sa fortune par un bon mariage ?» Un mois avant la noce, à peu près, Sauvresy avait mis les ouvriers au Val-Feuillu, et en moins de rien, il avait dépensé en réparation et en mobilier la bagatelle de 30 000 écus. C'est ce beau domaine que les époux choisirent pour passer leur lune de miel. Ils s'y trouvèrent si bien qu'ils s'y installèrent tout à fait, à la grande satisfaction de tous ceux qui étaient en relation avec eux. Ils conservèrent seulement un pied-à-terre à Paris. Berthe était de ces femmes qui naissent tout exprès, se semble, pour épouser les millionnaires. Sans gêne ni embarras, elle passa sans transition de la misérable salle d'école où elle secondait son père au superbe salon de Val-Feuillu. Et lorsqu'elle faisait les honneurs de son château à toute l'aristocratie des environs, il semblait que de sa vie elle n'avait fait autre chose. Elle sut rester simple, avenante, modeste, tout en prenant le ton de la plus haute société. On l'aima. « Mais il me semble, interrompit le maire, que je n'ai pas dit autre chose. Et ce n'était vraiment pas la peine. » Un geste du juge d'instruction lui ferma la bouche, et le père Plantat continua. « On aimait aussi, Sauvresy, un de ces cœurs d'or qui ne veulent même pas soupçonner le mal. Sauvresy était un de ces hommes à croyances robustes, à illusion obstinée que le doute n'effleure jamais de ses ailes d'or frais. Sauvres-y étaient de ceux qui croient quand même à l'amitié de leurs habits et à l'amour de leur maîtresse. Ce jeune ménage devait être heureux, et il le fut. Berthe adora son mari, cet homme honnête, qui, avant de lui dire un mot d'amour, lui avait offert sa main. Sauvres-y, lui, professait pour sa femme un culte que d'aucuns trouvaient presque ridicule. On vivait d'ailleurs grandement au Valfeuillu, on recevait beaucoup. Quand venait l'automne, les nombreuses chambres d'amis étaient toutes occupées. Les équipages étaient magnifiques. Enfin, Sauvresy était marié depuis 2 ans. Lorsqu'un soir, il amena de Paris un de ses anciens amis intimes, un camarade de collège dont on l'avait souvent entendu parler, le comte Hector de Trémorel. Le comte s'installa pour quelques semaines, annonça-t-il, au Valfeuillu. Mais les semaines s'écoulèrent, puis les mois. Il resta. On n'en fut pas surpris. Hector avait eu une jeunesse plus qu'orageuse, toute remplie de débauches bruyantes, de duels, de paris, d'amour. Il avait jeté à tous les vents de ses fantaisies une fortune colossale, et la vie relativement calme du Valfeuillu devait le séduire. Dans les premiers temps, on lui disait souvent « Oh, vous en aurez vite assez de la campagne !» Il souriait sans répondre. On pensa alors, et assez justement, que, devenu relativement très pauvre, il se souciait fort peu d'aller promener sa ruine au milieu de ceux qu'avait offusqué sa splendeur. Il s'absentait rarement, et seulement pour aller à Corbeil, presque toujours à pied. Là, il descendait à l'hôtel de la Belle Image, qui est le premier de la ville, et il s'y rencontrait, comme par hasard, avec une jeune dame de Paris. Ils passaient l'après-midi ensemble et se séparaient à l'heure du dernier train. « Peste !» grommela le maire. « Pour un homme qui vit seul, qui ne voit personne, qui pour rien au monde ne s'occuperait des affaires d'autrui, il me semble que notre cher juge de paix est assez bien informé. » Évidemment, M. Courtois était jaloux. Comment, lui, le premier personnage de la commune, il avait ignoré absolument ses rendez-vous. Sa mauvaise humeur augmenta encore lorsque le docteur Gendron répondit « Tout Corbeil a jasé de cela dans le temps. » M. Plantin eut un mouvement de lèvres qui pouvait signifier « Oh, je sais bien d'autres choses encore. » Il poursuivit cependant sans réflexion. L'installation du comte Hector au Valfeuillu ne changea rien absolument aux habitudes du château. Monsieur et Madame Sauvresy eurent un frère, voilà tout. Si Sauvresy fit à cette époque plusieurs voyages à Paris, c'est qu'il s'occupait, tout le monde le savait, des affaires de son ami. Cette existence ravissante dura 1 an. Le bonheur semblait s'être fixé à tout jamais, sous les ombrages délicieux du Valfeuilly. Mais, hélas, voilà qu'un soir, au retour d'une chasse au marais, Sauvresy se trouva si fort indisposé qu'il fut obligé de se mettre au lit. On fit venir un médecin. Que n'était-ce notre ami le docteur Gendron? Une fluxion de poitrine venait de se déclarer. Sauvresy était jeune, robuste, comme un chêne. On n'eut pas d'abord d'inquiétude sérieuse. 15 jours plus tard, en effet, il était debout. Mais il commit une imprudence et eut une rechute. Il se remit encore, du moins à peu près. À 1 semaine de là, nouvelle rechute, et si grave cette fois, qu'on put dès lors prévoir la terminaison fatale de la maladie. C'est pendant cette maladie interminable qu'éclatèrent l'amour de Berthe et l'affection de Trémorel pour Sauvresy. Jamais malade ne fut soigné avec une sollicitude semblable, entouré de tant de preuves du plus absolu, du plus pur dévouement. Toujours à son chevet, la nuit aussi bien que le jour, il avait sa femme ou son ami. Il eut des heures de souffrance, jamais une seconde d'ennui. À ce point qu'à tous ceux qui le venaient visiter, il disait, il répétait, qu'il en était arrivé à bénir son mal. Il m'a dit, à moi, si je n'étais pas tombé malade, jamais je n'aurais su combien je suis aimé. Oh, ces mêmes paroles, interrompit le maire, il me les a dites plus de 100 fois. Il les a répétées à Madame Courtois, à Laurence, ma fille aînée. Ben, naturellement, continua le père Plantat, mais le mal de Sauvresy était de ceux contre lesquels échoue, et la science des médecins les plus expérimentés, et les soins les plus assidus. Il ne souffrait pas énormément, assurait-il. Mais il allait, s'affaiblissant à vue d'œil. Il n'était plus que l'ombre de lui-même. Enfin, une nuit vers 2 ou 3 heures du matin, il mourut entre les bras de sa femme et de son ami. Jusqu'au moment suprême, il avait conservé la plénitude de ses facultés. Moins d'une heure avant d'expirer, il voulut qu'on éveillât et qu'on fît venir tous les domestiques du château. Lorsqu'ils furent tous réunis autour de son lit, il prit la main de sa femme, la plaça dans la main du comte de Trémorel et leur fit jurer de s'épouser lorsqu'il ne serait plus. Berthe et Hector avaient commencé par se récrier, mais il insista, de façon à leur rendre un refus impossible, les priant, les adjurant, affirmant que leur résistance empoisonnerait ces derniers moments. Cette pensée du mariage de sa veuve et de son ami semblerait l'avoir singulièrement préoccupé sur la fin de sa vie. Dans le préambule de son testament, dicté la veille de sa mort à Maître Bury, notaire à Orcival, il dit formellement que leur union est son vœu le plus cher, certain qu'il est de leur bonheur et sachant bien que son souvenir sera pieusement gardé. Monsieur et Madame Sauvresy n'avaient pas d'enfants ? Demanda le juge d'instruction. Non, monsieur, répondit le maire. Le père Plantat continua. Immense fut la douleur du comte et de la jeune veuve. Monsieur de Trémorel, surtout, paraissait absolument désespéré. Il était comme fou. La comtesse s'enferma, consignant sa porte à toutes les personnes qu'elle aimait le mieux, même les dames Courtois. Lorsque le comte et Madame Berthe reparurent, on les reconnut à peine, tant ils étaient changés l'un et l'autre. Monsieur Hector, particulièrement, avait vieilli de 20 ans. Tiendrait-il le serment fait au lit de mort de Sauvresy, serment que tout le monde savait ? On se le demandait avec d'autant plus d'intérêt qu'on admirait ses regrets profonds pour un homme qui, fait bien remarquable, le méritait vraiment. Le juge d'instruction arrêta d'un signe de tête le père Plantat. « Savez-vous, monsieur le juge de paix, demanda-t-il, si les rendez-vous à l'hôtel de la Belle Image avaient cessé ? Bon, je le présume, monsieur, je le crois. » « Ah, et moi, j'en suis à peu près sûr, » affirma le docteur Gendron. « Il me souvient d'avoir ouï parler, oh, tout se sait à Corbeil, d'une bruyante explication entre M. de Trémorel et la jolie dame de Paris. À la suite de cette scène, on ne les revit plus à la Belle Image. » Le vieux juge de paix eut un sourire. « Melun n'est pas au bout du monde, » dit-il. « Il y a des hôtels à Melun, avec un bon cheval. » On les vit à Fontainebleau, à Versailles, à Paris même. Madame de Trémorel pouvait être jalouse. Son mari avait dans ses écuries des trotteurs de premier ordre. Le père Plantat émettait-il une opinion absolument désintéressée ? Glissait-il une insinuation ? Le juge d'instruction le regarda attentivement pour s'en assurer, mais son visage n'exprimait rien qu'une tranquillité profonde. Il contait cette histoire comme il en eût conté une autre, n'importe laquelle. Je vous demanderai de poursuivre, monsieur, reprit monsieur Daubigny. Hélas, reprit le père Plantard, il n'est rien d'éternel, ici-bas, pas même la douleur. Mieux que personne, je puis le dire. Bientôt, aux larmes des premiers jours, au désespoir violent, succédèrent chez le comte et chez madame Berthe une tristesse raisonnable, puis une douce mélancolie. Et un an après la mort de Sauresy, M. de Trémorel épousait sa veuve. Pendant ce récit assez long, M. le maire d'Orcival avait à bien des reprises donné des marques d'un vif dépit. À la fin, n'y tenant plus. Voilà, certes, explique-t-il, des détails exacts, on ne peut plus exact, mais je me demande s'ils ont fait faire un pas à la grave question qui nous occupe tous. Trouver les meurtriers du comte et de la comtesse. Le père Planta, à ces mots, arrêta sur le juge d'instruction son regard clair et profond, comme pour fouiller au plus profond de sa conscience. Oh, ces détails m'étaient indispensables, répondit M. Daubigny, et je les trouve fort clairs. Ces rendez-vous dans un hôtel me frappent. On ne sait pas assez à quelles extrémités la jalousie peut conduire une femme. Il s'arrêta brusquement, cherchant sans doute un trait d'union probable entre la jolie dame de Paris et les meurtriers, puis il reprit. « Maintenant que je connais les époux Trémorel, comme si j'eusse vécu dans leur intimité, arrivons aux faits actuels. » L'œil brillant du père Planta s'éteignit subitement. Il remua les lèvres comme s'il eût voulu parler. Cependant, il se tut. Seul, le docteur, qui n'avait cessé d'étudier le vieux juge de paix, remarqua son subit changement de physionomie. « Il ne me reste plus, dit M. Dominique, à savoir comment vivaient les nouveaux époux. » M. Courtois pensa qu'il était de sa dignité d'enlever la parole au père Planta. « Vous demandez comment vivaient les nouveaux époux, répondit-il vivement. Ils vivaient en parfaite intelligence. Nul dans ma commune ne le sait mieux que moi, qui était de leur intimité intime. Le souvenir de ce pauvre Sauresy était entre lieux un lieu de bonheur. S'il m'aimait tant, c'est que je parlais souvent de lui. Jamais un nuage, jamais un mot. Hector, je l'appelais ainsi familièrement, ce malheureux et cher comte, avait pour sa femme les soins empressés d'un amant, ses prévenances exquises, dont les époux, je ne crains pas de le dire, se déshabituent en général trop vite. « Et la comtesse ? » demanda le père Planta d'un ton trop naïf, pour ne point être ironique. « Berthe ! » répliqua monsieur le maire. « Elle me permettait de la nommer paternellement ainsi. « Berthe ! » Je n'ai pas craint de la citer maintes et maintes fois, pour exemple et modèle à madame Courtois. Berthe, elle était digne de Sauvresy et d'Hector, les deux hommes les plus dignes que j'ai jamais rencontrés en ma vie. Et, s'apercevant que son enthousiasme surprenait un peu les auditeurs, « J'ai mes raisons, reprit-il plus doucement, pour m'exprimer ainsi, et je ne redoute point de le faire, devant des hommes dont la profession et encore plus le caractère me garantissent la discrétion. Sauvresy m'a rendu en sa vie un grand service lorsque j'eus la main forcée pour prendre la mairie. Quant à Hector, je le croyais si bien revenu des erreurs de sa jeunesse qu'ayant cru m'apercevoir qu'il n'était pas indifférent à Laurence, ma fille aînée, j'avais songé à un mariage d'autant plus sortable que si le comte Hector de Trémorel avait un grand nom, je donnais à ma fille une dot assez considérable pour redorer n'importe quel écusson. Les événements seuls ont modifié mes projets. » Monsieur le maire eut chanté longtemps encore les louanges des époux Trémorel et les siennes par la même occasion. Si le juge d'instruction n'eût pris la parole. « Me voici fixé, commença-t-il. Désormais, il me semble, il fut interrompu par un grand bruit venant du vestibule. On eût dit une lutte, et les cris et les vociférations arrivaient au salon. Tout le monde se leva. « Oh, je ne sais ce que c'est, dit le maire, mais je ne le sais que trop. On vient de retrouver le cadavre du comte de Trémorel. »